voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, dans ce numéro d'A Voix Lue, nous vous proposons de suivre les aventures d'un grand personnage qui a marqué l'Académie des sciences au XIXe siècle, l'astronome Arago. François Arago eut en effet un parcours exceptionnel et son don pour rendre compte de ses pérégrinations en Espagne avec son ami et collègue Jean-Baptiste Biot, également académicien, rencontrèrent un vif succès. Dans quelques instants, vous allez revivre ses aventures grâce à la lecture d'extraits issus de son ouvrage « L'histoire de ma jeunesse ». Il y relate les avancées scientifiques, mais surtout une succession de mésaventures dignes d'un roman. Pensez donc, Arago sera accusé d'espionnage, frappé par un archevêque, empoisonné par un moine, emprisonné. Il évitera de justesse les balles de fusil d'un mari déshonoré, mais sera fait prisonnier plus tard par des corsaires. Tout cela entre 1806 et 1809, dans une Espagne en guerre contre la France, alors qu'à Paris, tout le monde le pense mort depuis longtemps. Arago est un esprit vif, drôle, rusé et surdoué. Il entrera à l'Académie des sciences à 23 ans. C'est le plus jeune homme à entrer à l'Académie. Si son goût est porté pour la narration de ses aventures, cela ne l'empêche pas d'être un scientifique brillant. Il travailla sur la polarisation de la lumière, sur la polarisation chromatique, dont tous les minéralogistes dans le monde utilisent encore ce phénomène pour identifier les minéraux. Il collabora également en optique avec Fresnel, Fizeau et Foucault sur la vitesse de la lumière. Arago suggéra également à Le Verrier de s'intéresser aux irrégularités du mouvement d'Uranus, ce qui l'amena à découvrir Neptune. Et puis ses amis ne furent autres que le grand voyageur Alexander von Humboldt et l'écrivain Chateaubriand. Fervent républicain, Arago eut également un pied dans la politique. Il fut en effet député des Pyrénées-Orientales en 1832, fut très présent à la Chambre et y défendit les sciences et les techniques. Et puis il s'attacha sans succès malheureusement à l'établissement du suffrage universel. Il avait des vues sur la décentralisation de l'enseignement secondaire et puis éphémère ministre de la Marine et de la Guerre du gouvernement provisoire en 1848. Il eut juste le temps de supprimer les châtiments corporels dans la Marine. Et puis surtout, il fit aboutir et fit signer le décret abolissant l'esclavage dans les colonies françaises, une œuvre de Victor Schœlcher. À l'Académie des sciences, Arago jouera également un rôle important. Élu secrétaire perpétuel, il instaurera les comptes rendus de l'Académie des sciences, encore en vigueur actuellement. Il accordera également une grande importance à la naissance de la photographie, en finançant les recherches de Daguerre et de son daguerréotype. Et puis enfin, il fut élu au bureau des longitudes avant d'en devenir le président. Lors de son décès, 60 000 personnes suivirent son cercueil. Paris l'a honoré par un boulevard et il reste sur le macadam des rondelles de bronze qui concrétisent le passage du méridien de Paris. Mais revenons à des choses plus joyeuses et partons en Espagne avec Arago et son ami et académicien Jean-Baptiste Biot. Dans « Histoire de ma jeunesse », il évoque son départ en 1806 sur la montagne de Campvé avec Biot afin de terminer les mesures de la méridienne. Entre rencontres avec des moines chartreux et contexte politique, Arago nous donne ses premières impressions dès son arrivée sur le territoire ibérique.
À peine entré à l'observatoire, je devins le collaborateur de Biot dans des recherches sur la réfraction des gaz, jadis commencé par Borda. Durant ce travail, nous nous entretîmes souvent, le célèbre académicien et moi, de l'intérêt qu'il y aurait à reprendre en Espagne la mesure interrompue par la mort de Méchain. Nous soumîmes notre projet à la place, qui l'accueillit avec ardeur, fit faire les fonds nécessaires, et le gouvernement nous confia à tous deux cette mission importante. Nous partîmes de Paris, Monsieur Biot et moi, et le commissaire espagnol Rodriguez, au commencement de 1806. Nous visitâmes chemin faisant les stations indiquées par Méchain. Nous fîmes à la triangulation projetée quelques modifications importantes, et nous nous mîmes aussitôt à l'œuvre. Une direction inexacte donnée au réverbère établi à Ibiza, sur la montagne Campvé, rendit les observations faites sur le continent extrêmement difficiles. La lumière du signal de Campvé se voyait très rarement, et je fus pendant 6 mois au Desierto de Las Palmas sans l'apercevoir. Tandis que plus tard, la lumière établie au désir tôt, mais bien dirigée, se voyait tous les soirs de Cambvé. On concevra facilement quel ennui devait éprouver un astronome actif et jeune, confiné sur un pic élevé, n'ayant pour promenade qu'un espace d'une vingtaine de mètres carrés et pour distraction que la conversation de deux chartreux dont le couvent était situé au pied de la montagne et qui venaient en cachette enfreindre la règle de leur ordre. J'étais à Valence vers le milieu d'octobre 1806. Un matin, de bonne heure, je vis entrer chez moi le consul de France tout effaré. « Voici une triste nouvelle, me dit Monsieur Lanus. Faites vos préparatifs de départ. La ville est tout en émoi. Une déclaration de guerre contre la France vient d'être publiée. Il paraît que nous avons éprouvé un grand désastre en Prusse. La reine, assure-t-on, s'est mise à la tête de la cavalerie et de la garde royale. Une partie de l'armée française a été taillée en pièces. Le reste est en complète déroute. Nos vies ne seraient pas en sûreté si nous restions ici. » L'ambassadeur de France à Madrid me préviendra quand un bâtiment américain, à l'ancre au Grao de Valence, pourra nous prendre à son bord et moi, je vous avertirai dès que le moment sera venu. Ce moment ne vint pas. Car peu de jours après, la fausse nouvelle qui, on doit le supposer, avait dicté la proclamation du prince de la paix, fut remplacée par le bulletin de la bataille d'Iéna. Les gens qui d'abord faisaient les fanfarons et menaçaient de tout pour fendre étaient subitement devenus d'une platitude honteuse. Nous pouvions nous promener dans la ville tête levée sans craindre désormais d'être insultés.
Dans ce passage, François Arago vient de nous révéler le contexte politique dans lequel les deux chercheurs évoluent. Dans cette deuxième partie, nous restons à Valence avec Jean-Baptiste Biot et notre narrateur pour mesurer le méridien. Mais très vite, Arago se laisse entraîner par une nouvelle digression et nous fait partager l'une de ses nombreuses anecdotes. Celle-ci relate le courroux d'un mari déshonoré.
J'attendais à Valence Monsieur Biot qui s'était chargé d'apporter de nouveaux instruments avec lesquels nous devions mesurer la latitude de Formentera. Je profiterai de ces courts instants de repos pour consigner ici quelques détails de Morse qu'on lira peut-être avec intérêt. Je rapporterai d'abord une aventure qui faillit me coûter la vie dans des circonstances assez singulières. Un jour, par délassement, je crus pouvoir aller avec un compatriote à la foire de Murviedro. Je rencontrai dans la ville la fille d'un Français résidant à Valence, Mademoiselle B. Toutes les hôtelleries étaient combles. Mademoiselle B nous invita à aller prendre une collation chez sa grand-mère. Nous acceptâmes. Mais au sortir de la maison, elle nous apprit que notre visite n'avait pas été du goût de son fiancé et que nous devions nous attendre à quelques guet-apens de sa façon. Nous allâmes incontinent acheter des pistolets chez un armurier et nous nous remîmes en route pour Valence. Chemin faisant, je dis au Calezero, homme que j'employais depuis longtemps et qui m'était très dévoué, « Isidro, j'ai quelques raisons de croire que nous serons arrêtés. Je vous en avertis, afin que vous ne soyez pas surpris par les coups de feu qui partiront de la Calezza. » Isidro, assis sur le brancard, suivant l'habitude du pays, répondit, « Vos pistolets sont parfaitement inutiles, messieurs. Laissez-moi faire. » Il suffira d'un cri pour que ma mule nous débarrasse de deux, de trois et même de quatre hommes. Une minute s'était à peine écoulée depuis que le Calezero avait prononcé ces paroles lorsque deux hommes se présentèrent devant la mule et la saisirent par les naseaux. À l'instant, un cri formidable qui ne s'effacera jamais de mon souvenir, le cri de Capitana, fut poussé par Isidro. La mule se cabra presque verticalement en soulevant l'un des deux hommes, retomba et partit au grand galop. Le chaos qu'éprouva la voiture nous fit trop bien comprendre ce qui venait d'arriver. Un long silence succéda à cet événement. Il ne fut interrompu que par ces mots du Calezero. « Ne trouvez-vous pas, messieurs, que ma mule vaut mieux que des pistolets ?» Le lendemain, le capitaine général, Don Domingo Izquierdo, me raconta qu'on avait trouvé un homme écrasé sur la route de Murviedro.
Après cette escapade sentimentale, nos deux scientifiques se remettent au travail. Retournons au pied de la montagne Cambvé, où nous avons laissé sur place les deux chartreux. Après la méfiance, les deux parties sympathisent, avant que les choses ne s'enveniment très rapidement.
J'ai raconté dans le cours de ma relation que deux chartreux quittaient souvent leur couvent du Desierto de Las Palmas et venaient en contrebande me voir à ma station, située environ 200 mètres plus haut. Quelques détails pourront donner une idée de ce qu'étaient certains moines dans la péninsule en 1807. L'un des deux, le père Trivuls, était vieux. L'autre, au contraire, était très jeune. Le premier, d'origine française, avait joué un rôle à Marseille dans les événements contre-révolutionnaires dont cette ville fut le théâtre au commencement de notre première révolution. Son rôle avait été très actif. On en voyait la preuve aux cicatrices de coups de sabre qui sillonnaient sa poitrine. Ce fut lui qui vint le premier. En voyant monter son jeune camarade, il se cacha. Mais dès que celui-ci fut entré en pleine conversation avec moi, le père Trivuls se montra tout à coup. Son apparition fit l'effet de la tête de Méduse. « Rassurez-vous, dit-il à son jeune confrère, ne nous dénonçons pas réciproquement, car notre prieur n'est pas homme à nous pardonner d'être venu ici enfreindre notre vœu de silence. » Et nous recevrions tous deux une punition dont nous conserverions longtemps le souvenir. Le traité fut conclu aussitôt, et à partir de ce jour, les deux chartreux vinrent très souvent s'entretenir avec moi. Le plus jeune de nos deux visiteurs était aragonais. Sa famille l'avait fait moine contre sa volonté. Il me racontait un jour devant Monsieur Biot, revenu de Tarragone, où il s'était réfugié pour se guérir de la fièvre, des détails qui, suivant lui, prouvaient qu'il n'y avait plus en Espagne que des simulacres de religion. Ces détails étaient surtout empruntés au mystère de la confession. Monsieur Biot témoigna brusquement le déplaisir que cette conversation lui causait. Il y eut même dans ses paroles quelques mots qui portèrent le moine à supposer que Monsieur Biot le prenait pour une sorte d'espion. Dès que ce soupçon eut traversé son esprit, il nous quitta sans mot dire et, le lendemain matin, je le vis monter de bonne heure, armé d'un fusil. Le moine français l'avait précédé et m'avait dit à l'oreille quel danger menaçait mon confrère. « Joignez-vous à moi, ajouta-t-il, pour détourner le jeune moine aragonais de son projet homicide. Je n'ai pas besoin de dire que je m'employais avec ardeur dans cette négociation où j'eus le bonheur de réussir. » Il y avait là, comme on le voit, l'étoffe d'un chef de guérilleros. Je serais bien étonné que mon jeune moine n'eût pas joué un rôle dans la guerre de l'indépendance.
Finalement, Jean-Baptiste Biot et François Arago s'en sortiront sains et saufs. Mais leurs aventures avec le clergé ne firent que commencer. Peu de temps après, effectivement, les deux amis commirent une seconde erreur, et cette fois avec un archevêque. Écoutez plutôt.
Pour réussir dans nos opérations géodésiques, pour obtenir le concours des habitants des villages voisins de nos stations, nous avions besoin d'être recommandés au curé. Nous allâmes donc, Monsieur Lanus, vice-consul de France, Monsieur Biot et moi, rendre visite à l'archevêque de Valence afin de solliciter sa protection. Cet archevêque, homme de très haute taille, était alors général des franciscains. Son costume, plus que négligé, sa robe grise couverte de tabac, contrastait avec la magnificence du palais archiépiscopal. Il nous reçut avec bonté et nous promit toutes les recommandations désirables. Mais au moment de prendre congé de lui, nos affaires semblèrent se gâter. Monsieur Lanus et Monsieur Biot sortirent de la salle de réception sans baiser la main de Monseigneur, quoiqu'il l'eût présenté à chacun d'eux très gracieusement. L'archevêque se dédommagea sur ma pauvre personne. Un mouvement qui faillit me casser les dents, un geste que je pourrais justement appeler un coup de poing, me prouva que le général des franciscains, malgré son vœu d'humilité, avait été choqué du sans-façon de mes deux compagnons de visite. J'allais me plaindre de la brusquerie dont il usait à mon égard, mais j'avais devant les yeux les nécessités de nos opérations trigonométriques, et je me tus. D'ailleurs, à l'instant où le poing serré de l'archevêque s'appliqua sur mes lèvres, je songeais encore aux belles expériences d'optique qu'il eût été possible de faire avec la magnifique pierre qui ornait son anneau pastoral. Cette idée, je le dis franchement, m'avait préoccupé pendant toute la durée de la visite.
Suite à ce coup asséné à Arago, dont les détails ne vous auront certainement pas laissé de marbre, le temps passa doucement jusqu'à l'obtention des fameux outils. Ils partirent alors à Formentera continuer leurs calculs, mais ils durent faire face à de nouvelles embûches, sauver un soldat français emprisonné avant d'être accusé d'espionnage.
Monsieur Biot, étant enfin venu me retrouver à Valence, où j'attendais, comme je l'ai dit, de nouveaux instruments, nous nous rendîmes à Formentera. extrémité méridionale de notre arc, dont nous déterminâmes la latitude. Monsieur Biot me quitta ensuite pour retourner à Paris, pendant que je joignais géodésiquement l'île Majorque à Ibiza et à Formentera, obtenant ainsi, à l'aide d'un seul triangle, la mesure d'un arc de parallèle d'un degré et demi. Je me rendis ensuite à Majorque pour y mesurer la latitude et l'azimut. À cette époque, la fermentation politique engendrée par l'entrée des Français en Espagne commençait à envahir toute la péninsule et les îles qui en dépendent. Cette fermentation n'atteignait encore à Majorque que les ministres, les partisans et les parents du prince de la paix. Tous les soirs, je voyais traîner en triomphe sur la place de Palma, capitale de l'île Majorque, tantôt les voitures en flammes du ministre solaire, tantôt les voitures de l'évêque et même celles de simples particuliers soupçonnés d'être attachés à la fortune du favori Godoy. J'étais loin de soupçonner alors que mon tour allait bientôt arriver. Ma station majorquine, le club de Galazzo, montagne très élevée, était situé précisément au-dessus du port où débarqua Don Jem el Conquistador lorsqu'il alla enlever les îles Baléares aux Maures. Le bruit se répandit dans la population que je m'étais établi là pour favoriser l'arrivée de l'armée française et que tous les soirs je lui faisais des signaux. Ces bruits, toutefois, ne devinrent menaçants pour moi qu'au moment de l'arrivée à Palma, le 27 mai 1808, d'un officier d'ordonnance de Napoléon. Cet officier était M. Berthomy. Il portait à l'escadre espagnole, à Mahon, l'ordre de se rendre en toute hâte à Toulon. Un soulèvement général qui mit la vie de cet officier en danger suivit la nouvelle de sa mission. Le capitaine général Vives ne parvint même à lui sauver la vie qu'en le laissant enfermé dans le château fort de Belvert. On se souvint alors du français établi au club de Galazzo et l'on formate une expédition populaire pour aller s'en saisir. Monsieur Damien, patron du mystique que le gouvernement espagnol avait mis à sa disposition, prit les devants et m'apporta un costume à l'aide duquel je me déguisais. En me dirigeant vers Palma, en compagnie du brave marin, nous rencontrâmes l'attroupement qui allait à ma recherche. On ne me reconnut pas, car je parlais parfaitement le majorquin. J'encourageai fortement les hommes de ce détachement à continuer leur route, et je m'acheminai vers Palma. La nuit, je me rendis à bord du Mystique, commandé par Don Manuel de Vaccaro, que le gouvernement espagnol avait placé sous mes ordres. Je demandai à cet officier s'il voulait me conduire à Barcelone, occupé par les Français, lui promettant que si l'on faisait mine de le retenir, je reviendrais sur le champ me constituer prisonnier. Don Manuel, qui jusqu'alors avait montré envers moi une obséquiosité extrême, n'eut que des paroles de rudesse et de défiance. Il se fit sur le mol, où le mystique était amarré, un mouvement tumultueux que Vaccaro m'assura être dirigé contre moi. « Soyez sans inquiétude, me dit-il. Si l'on pénètre dans le navire, vous vous cacherez dans ce bahut. » J'en fis l'essai. Mais la caisse qu'il me montrait était si exiguë que mes jambes étaient tout entières en dehors et que le couvercle ne pouvait pas se fermer. Je compris parfaitement ce que cela voulait dire. Et je demandai à M. Vaccaro de me faire enfermer aussi au château de Belvert. L'ordre d'incarcération du capitaine général étant arrivé, je descendis dans la chaloupe où les matelots du mystique me reçurent avec effusion. Au moment où ils traversaient la rade, la populace m'aperçut, se mit à ma poursuite et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que j'atteignis Belvert sain et sauf. Je n'avais en effet reçu dans ma course qu'un léger coup de poignard à la cuisse. On a vu souvent des prisonniers s'éloigner à toutes jambes de leur cachot. Je suis le premier peut-être à qui il ait été donné de faire l'inverse. Cela se passait le 1er ou le 2 juin 1808.
Il est temps cette fois de rentrer sur Paris. Nous sommes alors en 1808. Arago prend le bateau pour rentrer plus rapidement, mais sa malchance lui joue de nouveau des tours. Il sera fait prisonnier par des corsaires qui le gardèrent afin de traduire des textes en diverses langues.
Nous étions déjà entrés dans le golfe de Lyon et nous approchions de Marseille lorsque le 16 août 1808, nous rencontrâmes un corsaire espagnol de Palamos armé à la proue de deux canons de 24. Nous fîmes force de voile, nous espérions lui échapper. Mais un coup de canon dont le boulet traversa nos voiles nous apprit qu'il marchait beaucoup mieux que nous. Nous obéîmes à une injonction ainsi formulée et attendîmes la chaloupe du corsaire. Le capitaine déclara qu'il nous faisait prisonniers, quoique l'Espagne fût en paix avec les barbaresques, sous le prétexte que nous violions le blocus qu'on venait de mettre sur toutes les côtes de France. Il ajouta qu'il allait nous mener à Rosas et que là, les autorités décideraient de notre sort. J'étais dans la chambre du bâtiment, j'eus la curiosité de regarder furtivement l'équipage de la chaloupe. Et j'y aperçus, avec un déplaisir que tout le monde concevra, un des matelots du Mystique, commandé par Don Manuel de Vaccaro, le nommé Pablo Blanco de Palamos, qui m'avait souvent servi de domestique pendant mes opérations géodésiques. Mon faux passeport devenait dès ce moment inutile, si Pablo me reconnaissait. Je me couchai aussitôt, j'enveloppai ma tête dans ma couverture et je ne bougeai pas plus qu'une statue. Dans les 2 jours qui s'écoulèrent entre notre capture et notre entrée dans la rade de Rosas, Pablo, que la curiosité conduisait souvent dans la chambre, s'écriait « Voilà un passager dont je n'ai pas encore réussi à voir la figure !» Lorsque nous fûmes arrivés à Rosas, on décida que nous serions mis en quarantaine dans un moulin à vent démantelé, situé sur la route qui conduit à Figueras. J'eus le soin de m'embarquer sur une chaloupe à laquelle Pablo n'appartenait pas. Le corsaire partit pour une nouvelle croisière, et je fus un moment débarrassé des préoccupations que me donnait mon ancien domestique. Notre bâtiment était richement chargé. Les autorités espagnoles désiraient dès lors beaucoup le déclarer de bonne prise. Ils firent semblant de croire que j'en étais le propriétaire et voulurent, pour brusquer les choses, m'interroger, même sans attendre la fin de la quarantaine. On tendit 2 cordes entre le moulin et la plage et un juge se plaça en face de moi. Comme l'interrogatoire se faisait de très loin, le nombre public qui nous entourait prenait une part directe aux questions et aux réponses. « Qui êtes-vous ? » « Un pauvre marchand ambulant. » « Et d'où êtes-vous ? » « D'un pays où certainement vous n'avez jamais été. » « Enfin, quel est ce pays ?» Je craignais de répondre car les passeports trempés dans le vinaigre étaient dans les mains du juge instructeur et j'avais oublié si j'étais de Chouécat ou de Léoben. Je répondis enfin, tout hasard, « Je suis de Chouécat. » Et cette indication se trouvait heureusement conforme à celle du passeport. « Vous êtes de Chouécat, comme moi ?» me répondit le juge. « Vous êtes espagnol et même espagnol du royaume de Valence, comme je le vois à votre accent. Vous allez me punir, monsieur, de ce que la nature m'a donné le don des langues. J'apprends avec facilité les dialectes des contrées où je vais exercer mon commerce. » J'ai appris, par exemple, le dialecte d'Ivisa. Eh bien, vous serez pris au mot. J'aperçois ici un soldat d'Ivisa. Vous allez lier conversation avec lui. J'y consens. Je vais même chanter la chanson des chèvres. Les vers de ce chant, si vers il y a, sont séparés de 2 en 2 par une imitation du bêlement de la chèvre. Je me mis aussitôt, avec une audace dont je suis actuellement étonné, à entonner cet air chanté par tous les bergers de l'île. Voilà mon Ivisanero pour qui cet air faisait l'effet du rang des vaches sur les Suisses, déclarant tout en pleurs que je suis originaire d'Ivisa. Je dis alors au juge que s'il veut me mettre en contact avec une personne sachant la langue française, on arrivera à une solution tout aussi embarrassante. Un officier émigré du régiment de Bourbon s'offre incontinent pour faire l'expérience et après quelques phrases échangées entre nous, affirme sans hésiter que je suis français. Le juge impatienté s'écrie « En mettons fin à ces épreuves qui ne décident rien. Je vous somme, monsieur, de me dire qui vous êtes. Je vous promets la vie sauve si vous me répondez avec sincérité. » Mon plus grand désir serait de vous faire une réponse qui vous satisfie. Je vais donc essayer. mais je vous préviens que je ne vais pas dire la vérité. Je suis le fils de l'aubergiste de Mataro. Je connais cet aubergiste. Vous n'êtes pas son fils. Vous avez raison. Je vous ai annoncé que je varierais mes réponses jusqu'à ce qu'il y en eût une qui vous convainc. Je reprends donc. Et je vous dis que je suis un titiritero, joueur de marionnettes, et que j'exerçais à l'Erlida. Un énorme éclat de rire de tout le public qui nous entourait accueillit cette réponse et mit fin aux questions. « Je jure par le diable !» s'écria le juge, « que je découvrirai tôt ou tard qui vous êtes. » Et il se retira. Les Arabes, les Marocains, les Juifs, témoins de cet interrogatoire, n'y avaient rien compris. Ils avaient vu seulement que je ne m'étais pas laissé intimider. À la fin de l'entretien, ils vinrent me baiser la main et m'accordèrent dès ce moment leur entière confiance. Je devins leur secrétaire pour toutes les réclamations individuelles ou collectives qu'ils se croyaient en droit d'adresser au gouvernement espagnol. Et ce droit était incontestable. Tous les jours, j'étais occupé à rédiger des pétitions, surtout au nom de deux marchands de plumes d'autruche, dont l'un se disait assez proche parent de l'empereur du Maroc. Émerveillé de la rapidité avec laquelle je remplissais une page de mon écriture, ils imaginèrent sans doute que j'écrirais aussi vite en caractère arabe lorsqu'il s'agirait de transcrire les passages du Coran, que ce serait là pour moi et pour eux la source d'une brillante fortune. Et ils me sollicitèrent, à main jointe, de me faire mahométan. On va aujourd'hui d'Alger à Marseille en 4 jours. J'avais employé 11 mois pour faire la même traversée. Il est vrai que j'avais fait ça et là des séjours involontaires. Mes lettres, parties du lazaret de Marseille, furent considérées par mes parents et mes amis comme des certificats de résurrection. Car depuis longtemps, on me supposait mort. Un grand géomètre avait même proposé au bureau des longitudes de ne plus payer mes appointements à mon fondé de pouvoir. Ce qui peut sembler d'autant plus cruel que ce fondé de pouvoir était mon père. La première lettre que je reçus de Paris renfermait des témoignages de sympathie et de félicitations sur la fin de mes pénibles et périlleuses aventures. Elle était d'un homme déjà en possession d'une réputation européenne, mais que je n'avais jamais vue. Monsieur de Humboldt, sur ce qu'il avait entendu dire de mes malheurs, m'offrait son amitié. Telle fut la première origine d'une liaison qui date de près de 42 ans, sans qu'aucun nuage l'ait jamais troublé. Après avoir terminé ma quarantaine, je me rendis d'abord à Perpignan, au sein de ma famille, où ma mère, la plus respectable et la plus pieuse des femmes, fit dire force messe pour célébrer mon retour, comme elle en avait demandé pour le repos de mon âme lorsqu'elle me croyait tomber sous le poignard des Espagnols. Mais je quittai bientôt ma ville natale pour rentrer à Paris et je déposai au bureau des longitudes et à l'Académie des sciences mes observations que j'étais parvenu à conserver au milieu des périls et des tribulations de ma longue campagne. Peu de jours après mon arrivée, le 18 septembre 1809, je fus nommé académicien en remplacement de Lalande. Il y avait 52 votants, j'obtins 47 voix, M. Poisson 4 et M. Noué 1. J'avais alors 23 ans. Les membres de l'Institut devaient toujours être présentés à l'empereur après qu'il eut confirmé leur nomination. Le jour désigné, réunis au président, au secrétaire des 4 classes et aux académiciens qui avaient des publications particulières à offrir au chef de l'État, il se rendait dans un des salons des Tuileries. Lorsque l'empereur revenait de la messe, il passait une sorte de revue de ses savants, de ses artistes, de ses littérateurs en habit vert. Je dois le déclarer, le spectacle dont je fus témoin le jour de ma présentation ne m'édifia pas. J'éprouvais même un déplaisir réel à voir l'empressement que mettaient les membres de l'Institut à se faire remarquer. « Vous êtes bien jeune, » me dit Napoléon en s'approchant de moi. Et sans attendre une réplique flatteuse qu'il n'eût pas été difficile de trouver, il ajouta « Comment vous appelez-vous »« Et mon voisin de droite, ne me laissant pas le temps de répondre à la question assurément très simple qui m'était adressée en ce moment, s'appressa de dire « Il s'appelle Arago. Et quelle est la science que vous cultivez ?» Mon voisin de gauche répliqua aussitôt « Il cultive l'astronomie. » « Et qu'est-ce que vous avez fait ?» Mon voisin de droite, jaloux de ce que mon voisin de gauche avait empiété sur ses droits à la seconde question, se hâta de prendre la parole et dit « Il vient de mesurer la méridienne d'Espagne. » L'empereur, s'imaginant sans doute qu'il avait devant lui un muet ou un imbécile, passa à un autre membre de l'Institut. Immédiatement après ma nomination, je fus en butte à d'étranges tracasseries de la part de l'autorité militaire. J'étais parti pour l'Espagne en conservant le titre d'élève de l'école polytechnique. Mon inscription sur les contrôles ne pouvait pas durer plus de 4 ans. En conséquence, on m'avait enjoint de rentrer en France pour y subir les examens de sortie. Mais sur ces entrefaites, la lande mourut, et par suite une place devint vacante au bureau des longitudes. Je fus nommé astronome adjoint. Ces places étant soumises à la nomination de l'empereur, Monsieur Lacué, directeur de la conscription, crut voir dans cette circonstance que j'avais satisfait à la loi et je fus autorisé à continuer mes opérations. Monsieur Mathieu Dumas, qui lui succéda, envisagea la question sous un point de vue tout différent. Il m'enjoignit de fournir un remplaçant ou de partir moi-même avec le contingent du 12e arrondissement de Paris. Toutes mes réclamations, toutes celles de mes amis ayant été sans effet, j'annonçai à l'honorable général que je me rendrais sur la place de l'Estrapade, d'où les conscrits devaient partir en costume de membres de l'Institut, et que c'est ainsi que je traverserais à pied la ville de Paris. Le général Mathieu Dumas fut effrayé de l'effet que produirait cette scène sur l'empereur, membre de l'Institut lui-même, et s'empressa, sous le coup de ma menace, de confirmer la décision du général Lacué. Dans l'année 1809, je fus choisi par le conseil de perfectionnement de l'école polytechnique pour succéder à M. Monge dans sa chaire d'analyse appliquée à la géométrie. Les circonstances de cette nomination sont restées un secret. Je saisis la première occasion qui s'offre à moi de les faire connaître. Monsieur Monge prit la peine de venir un jour à l'observatoire, me demandait de le remplacer. Je déclinai cet honneur à cause d'un projet de voyage que je devais faire dans l'Asie centrale avec monsieur de Humboldt. « Vous ne partirez certainement que dans quelques mois, dit l'illustre géomètre. Vous pourrez donc me remplacer temporairement. »« Votre proposition, répliquai-je, me flatte infiniment, mais je ne sais si je dois accepter. » « Je n'ai jamais lu votre grand ouvrage sur les équations aux différentes partielles. Je n'ai donc pas la certitude que je serai en mesure de faire des leçons aux élèves de l'école polytechnique sur une théorie aussi difficile. »« Essayez, dit-il, et vous verrez que cette théorie est plus claire qu'on ne le croit généralement. » J'essayai, en effet, et l'opinion de M. Monge me parut fondée. Le public ne comprit pas à cette époque comment le bienveillant M. Monge refusait obstinément de confier son cours à M. Binet, son répétiteur dont le zèle était bien connu. C'est ce motif que je vais dévoiler. Il y avait alors au bois de Boulogne une habitation nommée la Maison Grise, où se réunissait autour de M. Coessin, grand prêtre d'une religion nouvelle, un certain nombre d'adeptes, tels que le sueur, le musicien, Colin, répétiteur de chimie à l'école, M. Binet, etc. Un rapport du préfet de police avait signalé à l'empereur les hôtes de la Maison Grise comme étant affiliés à la Compagnie de Jésus. L'empereur s'en montra inquiet et irrité. « Eh bien, dit-il à M. Monge, voilà vos chers élèves devenus les disciples de Loyola. » Et Monge de nier. « Vous niez, reprit l'empereur. « Eh bien, sachez que le répétiteur de votre cours est dans cette clique !» Tout le monde comprendra qu'après une telle parole, Monge ne pouvait pas consentir à se faire remplacer par M. Binet.
Ainsi, Arago fut le plus jeune académicien à faire son entrée à l'Institut. Son élection était loin de faire l'unanimité au départ, même si par la suite, il fut l'un des plus grands secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Sa place au bureau des longitudes fera également jaser ses concurrents, mais Arago s'est toujours amusé du remue-ménage qu'il pouvait créer derrière lui. Voyageur, avide de rencontres, talentueux tant sur le plan scientifique que littéraire, grand conteur, Arago suscitait l'admiration, en déplaise à ses détracteurs, dans le nombre s'étiola au fil du temps. Cette émission à voilu se termine ici. Merci à Patrick Hamel d'avoir fait cette lecture. Je rappelle l'ouvrage de François Arago, Histoire de ma jeunesse, que vous retrouverez en poche dans les bibliothèques. Vous trouverez également un complément d'information sur les nombreuses fonctions d'Arago, notamment à l'Observatoire Royal, mais également au Bureau des Longitudes, grâce au livret édité conjointement par l'Académie des Sciences et le Bureau des Longitudes en 2003. Il s'intitule tout simplement Arago. Vous pouvez vous le procurer en contactant directement le service des archives de l'Académie des sciences. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Canal Académie.